Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Un podcast d'Approche Culture et Territoire.
Dans ce nouveau podcast de Pourquoi tu cries, rencontre avec Mustapha Mohammadi, membre du mouvement des travailleurs arabes dans les années 70. Il a participé à de nombreuses luttes sociales et antiracistes.
Bonjour, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast de Pourquoi tu cries, d'Approche Culture et Territoire. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter et nous dire qui vous êtes ?
Je m'appelle Mustapha Mohammadi. Je suis... En France depuis bientôt un demi-siècle. Je vis ici, je milite dans les associations depuis que je suis arrivé en France. Je suis marié, j'ai 3 enfants qui sont plus ou moins impliqués dans des actions à la fois sociales, culturelles ou politiques ici en France. Et j'ai un parcours moi un peu particulier parce que je ne suis pas venu en France comme immigré, comme travailleur immigré ici. Je suis venu en France pour découvrir, pour voir qu'est-ce que c'est cette France. Parce que de l'autre côté de la Méditerranée, enfin chez moi en Algérie, à Oran particulièrement, on rencontrait des coopérants, des Français qui nous parlaient de la France. On avait suivi ce qui s'était passé, les événements de 68. Nous, de l'autre côté, on les avait vécus d'une autre manière, mais aussi avec l'effervescence qu'il y a eu ici et les attentes et les espoirs qu'on a vus. Donc, moi, avec d'autres groupes, d'autres personnes, on avait une troupe de théâtre. Et à partir de ce travail théâtral, on a essayé de réfléchir sur nos conditions, sur la société dans laquelle on était. Et on pensait, par le biais du théâtre d'ailleurs, faire peut-être, comme, peut-être par naïveté, par jeunesse, on pensait faire la révolution à partir de l'action théâtrale. Et on a foncé, on a intervenu, on a fait du travail dans les quartiers là-bas à Oran, avec d'autres groupes, d'autres troupes de théâtre qui étaient dans la même logique que nous, et des gens qui étaient dans un ciné-club qui avait la même dynamique que nous. Et j'étais venu en France justement pour rencontrer des gens qui étaient venus nous voir, qui étaient des Français, et aussi on suivait ce qui se passait par rapport à l'émigration algérienne ici en France, les actes racistes qu'il y avait. Et nous aussi, on a été beaucoup marqués par octobre 61 à Paris, le massacre des Algériens, etc. Donc voilà un peu jusqu'à mon arrivée en France, donc en 1973, donc ça fait un bail, peut-être un bail et demi comme dirait l'autre. Et je devais rester que 2 mois ou 3 mois. Et finalement, je suis resté un bon bout de temps. Comme par hasard, j'ai rencontré un groupe de militants français et arabes à l'époque qui menaient une campagne contre les expulsions de militants. Il y avait notamment un militant qui était visé par le régime répressif qu'il y avait à l'époque, Marcellin, Fontanet, leur loi qui était très célèbre. Et donc, du coup, je découvre des gens sur les marchés, à Aix, dans les carrefours, un peu partout, avec des panneaux, des tracts à distribuer aux gens. Et j'étais curieux, j'ai demandé ce qui se passait, ils m'ont expliqué. Donc, on a échangé, après je les ai revus. Et moi qui avais une pratique de théâtre, d'agitation dans les villages, etc., J'ai suggéré au groupe, ça serait bien peut-être de jouer une petite scénette, d'intervenir par autre chose et tout. Bon, bah, du coup, j'ai été reçu à bras ouverts par ces militants. Puis je me suis rendu compte que j'étais face à des Français d'un comité de soutien aux travailleurs immigrés et des militants arabes qui s'appelait le mouvement des travailleurs arabes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette mouvance dès 73, dès mon arrivée ici. En participant avec eux, en échangeant avec eux, en intervenant avec eux, je me suis senti impliqué dans la démarche qu'ils avaient, partageant les convictions.
Dans les années 70 à Marseille, c'est aussi le moment où il va y avoir plusieurs crimes racistes qui ciblent particulièrement des travailleurs algériens. Vous arrivez dans ce contexte-là. Qu'est-ce que ça va jouer sur votre engagement, justement ?
Le jour où je suis arrivé en France, c'était après le meurtre du tramoni, du chauffeur du bus, par un Algérien qui s'est avéré par la suite malade, suite à des accidents, lui aussi a subi des violences. Je voyais des affiches partout. Ce que j'avais pas en Algérie, par exemple, des affiches en arabe, en français, alto-racisme, appelant à des mobilisations. J'ai déposé ma sacoche dans un hôtel pas loin de la gare Saint-Charles. Je venais d'arriver le jour où je suis arrivé. J'ai pris une chambre d'hôtel, j'ai laissé mon sac. Je suis venu juste avec un sac parce que je restais pas longtemps. Et je suis sorti me balader dans la ville. Et mes pas m'ont amené à la place de Charles de Gaulle, enfin du Centre Bourse. Et ce jour-là, il y avait le grand meeting, le grand rassemblement du comité de défense des Marseillais de l'extrême droite. Mais ça, je ne savais rien du tout. J'arrivais d'Algérie, voir le monde, je me suis approché pour entendre, écouter et voir ce qui se passe, pourquoi il y a ce rassemblement. Et puis j'ai déchanté au bout de quelques minutes parce que le discours était haineux contre les Arabes. Et puis je regardais autour de moi des gens qui dissimulaient des armes qui étaient sur leur veston, des choses comme ça. Bon, comme disait la chanson de Cher Imam, j'ai marché comme ça, des pas en arrière, et je me suis éclipsé comme ont fait les Belges pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je me suis retrouvé confronté dans les échanges et les discussions à cette situation du carnage. Les gens qui m'hébergeaient ne voulaient pas que je sorte le soir. Je dis, mais pourquoi ? Ils me disent, mais il y a un tel qui a été assassiné à tel endroit. On a trouvé un autre mort à Marseille. Un autre ouvrier qui rentrait du chantier a été lynché. Et je dis, mais c'est pas possible. Cette psychose que nous, les Algériens, on l'avait senti, mais en même temps, ça m'a rassuré parce que ma rencontre avec les intervenants du MTA et avec qui je commençais à participer à des interventions dans les hôtels meublés où il y avait les immigrés pour discuter, pour vérifier que tout le monde était rentré, etc. Ça m'a mis tout de suite un peu dans le bain de ces actions de mobilisation et de sensibilisation des dangers qui nous guettaient. Alors, pour la petite histoire, pour l'anecdote, il n'y avait pas une passivité des Algériens à cette époque. On a pris conscience que nous étions des cibles de fascistes, de racistes, mais en même temps, Il y a eu des comités de défense qui se sont créés un peu partout. D'ailleurs, en France, pas uniquement dans Marseille, à Grenoble, à Lyon. Il y a eu des comités de défense qui surveillaient s'il y a des intrus dans les cités, etc. Et c'est cette période où j'étais à Aix-en-Provence. On avait vécu, nous aussi, ça, puisqu'on faisait des rencontres, les militants, on se répartissait les hôtels meublés, là, où il y avait les travailleurs immigrés qui rentraient de leur chantier. On passait, on discutait avec eux, voir si tout le monde était rentré, quelle a été l'ambiance dans les chantiers et dans leur parcours jusqu'à la chambre d'hôtel. Donc je me suis retrouvé au bout de quelques jours, quelques semaines, dans le bain, dans les interventions. Les mobilisations ont continué, les rassemblements, jusqu'à l'assassinat du jeune Haj Lounes à la Calade, là, ça devait être en septembre, je pense. Oui, ça devait être vers la fin septembre, où on a organisé d'une manière spontanée, d'ailleurs à l'époque, nous, on nous appelait les Spontex, parce qu'on n'était ni affiliés ni à la CGT, ni à la CFDT, ni au Parti communiste, ni au Parti socialiste, ni à la Ligue révolutionnaire, ni à... vous voyez, d'ailleurs, même si parmi, dans nos rangs, il y avait des anciens Mao, des anciens de l'AGP, l'AGP était déjà dissoute à cette période-là. Donc, spontanément, nous avons organisé cette grande manifestation pour accompagner le cercueil de Haj Lounes pour qu'il parte à partir de la Calade. Et c'est ce jour-là qu'un des militants, je crois que c'est Khali Hamoud, qui monte sur une voiture et il appelle à la grève générale des travailleurs immigrés. À part nous, qui étaient motivés pour organiser cette grève, personne d'autre ne croyait. Personne d'autre ne s'attendait, ni les syndicats, ni les renseignements généraux de la police, ni les autres groupes d'extrême droite ou de gauche ne s'attendaient pas à ce qu'on lance un mot d'ordre grave, même pas l'amicale des Algériens, qui a essayé de torpiller l'initiative, et elle n'a pas réussi. Et la grève générale, elle a eu lieu pendant 24 heures et dans certains secteurs, 48 heures. Le premier électrochoc dans la société française, dans les institutions françaises, de la question de l'immigration et de cette force des travailleurs qui ne veulent plus rester dans l'ombre, qui ne veulent plus accepter leurs conditions de vie, parce que parallèlement à tout ce mouvement, il y avait les grèves de la faim pour les papiers. Et ces grèves de la faim par rapport au titre de séjour et au titre de travail, c'est une lutte contre la loi de deux ministres réactionnaires de droite qui sont Marcellin et Fontanet, ministre du Travail et le ministre de l'Intérieur de l'époque. C'était pas facile, on a payé très cher. Les militants du MTA, c'est pratiquement l'organisation qui a été frappé par les expulsions par l'État français et la police française. Parmi les gens expulsés de Marseille, il y a le pasteur Berthier Perregaux qui était à la CIMAD et qui était un des animateurs des comités de soutien. Il y a Abou Naïm, Maurice Courbage, qui était militant arabe, Mohamed Haribi, qui a été expulsé en Algérie. Il y avait Bachir, qui était menacé de... Et on s'était mobilisé pour qu'il ne le soit pas. À Lyon, à Paris, à Paris, il y a eu 5 ou 6 militants arabes du MTA qui ont été expulsés. Ça ne nous a pas freinés, ça ne nous a pas démobilisés ni démoralisés, puisque on était dans notre juste droit de revendication. Donc, la preuve, à partir de ces premières grèves de la faim, des centaines de travailleurs émigrés sans papier qui étaient à la merci des patrons ont obtenu leur titre de séjour, même si jusqu'à aujourd'hui, en France, c'est-à-dire 50 ans plus tard, il y a encore du travail au noir, etc. Et il se trouve que pendant ces grèves de la faim, on a obtenu des victoires à Aix, à Marseille, à La Ciotat, à Aix aussi, avec les ouvriers marocains de chez Grégory, les Turcs de chez Bernard. On a obtenu les... ça allait. Puis d'autres mouvements, d'autres rassemblements se sont faits à Avignon, à Montpellier en 30. Et moi, je suis allé à Montpellier pour soutenir les grévistes et les camarades du MTA. Finalement, je suis resté là-bas toute la période de la grève et jusqu'à l'intervention mais musclée et violente de la police, intervention fracassante de la police, 6 heures du matin. J'ai été désigné par on ne sait quoi, il devait y avoir des indiques là-bas, et on m'a mis de côté avec 2 ou 3 autres grévistes. Jamais on était des meneurs. Quand ils ont intervenu au temple, quand ils ont vidé tout le monde, ils ont éparpillé et tout, ils ont pris quelques-uns, dont moi, et le commissaire lui-même, qui est venu avec un flingue sur la tête, en me disant, Mustapha, maintenant, c'est qui l'homme entre nous? C'est qui l'homme? Je lui avais dit, enlevez votre flingue et je vous dirai qui c'est. Et ben, enfin, le résultat, c'est que j'ai eu droit à être hébergé chez les flics au commissariat de Montpellier, puis le lendemain embarqué pour Marseille pour aller inaugurer un centre qui était clandestin, que personne ne connaissait, que l'État avait mis en place un centre clandestin à La Joliette, sur le port de Marseille, qui s'appelle le centre d'Arenque. Et donc, je suis passé par le centre d'Arenque pendant 48 heures, au moins plus, je crois, le temps qu'ils trouvent une destination. Comme la grève à Montpellier, c'était une grève de travailleurs, de saisonniers marocains. Ils m'ont pris pour un Marocain, ils m'ont expulsé au Maroc avec les quelques Marocains qu'il y avait. Je ne voulais pas rester en Algérie après, parce que tout le périple de Casa à la frontière algérienne, chez les remis à la police algérienne, puis ça a pris du temps, un an et demi à peu près, pour que je me retape, que je me refasse. Et après, je me suis dit, il n'est pas question pour moi d'accepter cet état de fait, de m'avoir empêché. J'étais pas un criminel, j'étais pas dans un trafic, j'étais pas. Il fallait que je retourne parce que je m'étais engagé avec des gens à faire continuer la lutte avec eux jusqu'à la victoire. Et il fallait que je revienne. Donc je suis revenu en France au bout d'un an et demi. Et j'ai retrouvé les anciens grévistes qui ont obtenu, suite à ce mouvement, leurs papiers. Et ils m'ont présenté d'autres nouveaux qui n'étaient pas là. Je dis, mais d'où il vient cela? Ils me disent, le jour où il y a eu l'intervention de la police, la télévision a retransmis des scènes, et en expliquant qu'il y avait des grévistes de la faim pour les papiers. Ils me disent, ceux-là, ils ont vu ces émissions et ces informations à la télévision dans l'est de la France, dans d'autres endroits de France, et ils sont descendus et ils ont participé avec nous aux suites des manœuvres. Et parmi eux, il y a eu des leaders, des travailleurs qui ont pris en charge la continuité du mouvement.
شيد صورك على المزارع بين جدينا وعمل ايدينا شيد صورك على المزارع بين جدينا وعمل ايدينا
On vous voulait aussi revendiquer autre chose qui était importante pour nous, c'est-à-dire nous ne sommes pas que des bras, nous ne sommes pas que des machines, nous avons une vie, nous avons des sentiments, nous avons des pratiques et des expressions culturelles et artistiques. Donc, l'étape qu'on avait mise en place, c'est d'expliquer aux gens, d'ailleurs, les interventions dans les meetings et à la place des tracts, les scénettes, etc., c'était aussi une forme de dire et de sensibiliser les gens par un autre moyen d'expression, un autre moyen d'intervention. Et ça a payé puisque déjà les gens nous interpellaient, c'est quoi cette chanson, parce qu'on intervenait sur nos conditions de vie et on chantait en même temps. Donc du coup, dans les années après mon retour en 77, nous avons monté un atelier d'expression culturelle des travailleurs qui étaient dans les champs et avec qui on a mené des luttes en 77 pour qu'ils obtiennent leurs droits pour le logement et pour les salaires, etc. Puisque le groupe était logé sous les serres en même temps que les fleurs. D'ailleurs, il y avait même une chanson qui disait « Chez Grégory, Welwardad soit arbi. » Chez Grégory, la fleur, elle vaut un arabe, puisque là où il y avait le Grégory, c'est un paysagiste connu, etc. Et les gens vivaient sous les serres, été comme hiver. Alors vous voyez un peu les conditions de vie. Enfin, là aussi, on avait obtenu gain de cause. Et parmi les travailleurs qui étaient mobilisés, ils se sont impliqués puisqu'ils participaient aux interventions de sensibilisation dans les rues, dans les marchés, etc. Et nous avons monté un atelier d'expression artistique immigrée.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier.
Dans cette foulée-là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun lieu d'expression, de rassembler les éléments, les informations. Nous avons créé un centre de documentation. C'était le premier en France, un centre de documentation sur l'immigration et le Maghreb, ici à Marseille même, qui était un lieu de rencontre, un lieu de brassage entre les jeunes des quartiers et des cités, les anciens militants, ceux de la ville, avec une documentation, des rencontres, débats. Ce centre-là, depuis 1778 a tenu jusqu'à 2004-2005. À l'époque, 77-73, nous les immigrés, nous les étrangers, on n'avait pas le droit de créer une association. Donc les camarades des comités de soutien, comme le père Jean Audusseau, ont accepté de jouer le rôle et d'être des prête-noms pour créer l'association. Et ils étaient les administrateurs, enfin, en théorie, de la structure, jusqu'en 82, quand la loi a été abrogée, et nous, les immigrés, on pouvait prétendre. Et à ce moment-là, on a tout modifié, et moi, j'ai pris la présidence du CIDIM pendant une dizaine d'années. Après, on a changé, d'autres m'ont relayé, etc. Nous avons lancé le premier journal de l'immigration, le journal Sans Frontières. Et le journal Sans Frontières a été lancé d'une manière très large par les militants du MTA, mais élargi à d'autres, et sur deux pôles. Un pôle parisien à Paris, disons, MTA, puis avec d'autres structures et d'autres, des jeunes des banlieues, et ici à Marseille. Donc ce qui fait qu'on avait même deux rédactions à un moment donné. Celle de Marseille, qui était autour du CIDI, avec ancien militant du MTA, d'ailleurs le premier directeur de publication du journal Sans Frontières, c'est Hamoud, qui était d'ici de Marseille, et qui avait lancé le mot d'ordre de grève générale 5 ans auparavant. Moi, je m'occupais de la fabrication du journal. Donc, je faisais la navette, comme on bouclait une fois par semaine. Je passais 2 jours à Paris, je redescendais pour un travail. Je venais d'avoir mes papiers, je venais d'avoir du travail. Et puis après, je suis resté dans la radio, Radio Soleil. Nous avons créé la radio, puis... avec des jeunes des quartiers nord, comme Kera et Abbas, comme Abdou, comme Rachid, Ahmed, Issaoui, Nazira, on a créé Radio Gazelle.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Je dis, quand les jeunes me posent des questions, qu'est-ce que vous transmettez, qu'est-ce que vous dites, je dis, enfin, j'ai rien à transmettre. Chacun crée ses propres outils, ses moyens de lutte, ses moyens d'intervention. Par contre, juste, je rappelle une chose. Je dis, moi, je suis pas tombé comme ça du ciel pour être militant. Avec d'autres, d'abord, et ensuite... Parce qu'on a suivi les anticolonialistes d'Algérie et d'Afrique. Nous avons été influencés par eux. Quand j'ai parlé du journal Sans Frontières, le journal Sans Frontières, par exemple, pour nous, la première expérience d'un journal comme ça immigré, c'est Ho Chi Minh qui avait fait le journal qui s'appelait Le Paria. On a été influencés par les mouvements de libération, et puis par des luttes aussi. On a suivi les luttes des travailleurs de 68. On n'est pas resté en dehors de ce qui se passait ailleurs. Notre action ici, elle est inscrite dans une dynamique internationale.
Aujourd'hui, quel regard vous portez sur les luttes actuelles, et j'imagine que vous restez militant dans l'âme. Ça ne s'abandonne pas.
Le regard que je fais, il y a 2 choses. Par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années sur la marche, à l'époque, j'étais à fond impliqué à Sans Frontières. Je faisais les maquettes, le montage, je faisais la navette. On a couvert tous les crimes racistes de l'époque. On a accompagné la marche. Par exemple, au niveau de Radio Gazelle, au départ de la marche d'ici, avec un camarade qui s'appelle Maonis, qui a créé... l'agence immédiat qui produit des choses. Il y avait Radio Gazelle. Moi, j'intervenais à Radio Gazelle. Je faisais des animations sur la marche, et avec une autre qui, malheureusement, je lui rends hommage, elle est décédée, Michel Bassinelli. Avec elle, on avait une émission qui s'appelait Les Échos de la marche. Elle avait un temps d'antenne et moi, je faisais des entretiens. J'accompagnais les marcheurs et la marche, et je revenais, on faisait un montage, et la cassette qu'on diffusait ici, on faisait une copie. Je montais à Saint-Charles, à la gare, je trouve quelqu'un qui monte à Paris, on lui donnait la cassette, Maonis la réceptionnait là-bas à Paris, faisait 3 ou 4 copies, il l'envoyait à Grenoble, une dans le nord à Roubaix, une autre, 2 autres dans des radios parisiennes, et on diffusait, on a continué à faire, on a accompagné la marche comme ça.
Sur les luttes actuelles, qu'est-ce que ça vous fait en fait d'assister à tout ça aussi aujourd'hui?
Ce qui me gêne, c'est un peu les commémorations. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers, dans les cités, je me sens concerné, je me suis impliqué. Je suis sollicité par des personnes, par des collectifs, par des groupes. Je continue. Ce que j'en déduis, c'est qu'il y a une nouvelle forme de révolte très très forte dans les quartiers populaires. Je pense que la différence avec il y a quelques années, c'est que aujourd'hui il y a une prise de conscience qui se fait dans les quartiers populaires, que tout le discours de nous sommes égaux, la société, etc., le progrès, le projet, on le partage tous, etc., ils ont compris que c'était du pipeau, que eux, ils n'ont aucune retombée à part la marginalisation, l'exclusion et la répression et la banalisation des violences qu'ils subissent, qu'elles soient violences directes par les meurtres et par les tabassages, ou une violence par leurs conditions de vie, de leurs conditions sociales, les problèmes liés au logement, les problèmes liés à la santé, etc. Tout le monde a pris conscience qu'en face, ils ne sont pas pour la paix ni pour l'apaisement. Nous avons organisé dans le cadre des rencontres nationales des luttes de l'immigration. On a commencé par faire un truc à Lille, dans le Nord, il y a une dizaine d'années, mais je ne suis pas parti seul. Il y avait des jeunes et des vieux mineurs de Gardanne et des vieux chibanis de Marseille avec qui on est parti échanger avec les anciens mineurs du Nord, etc. On a fait les deuxièmes rencontres ici, entre Marseille, Gardanne et Septem, où il y a eu des rencontres d'échanges sur ces pratiques, sur ces luttes, etc. Ça a laissé des traces parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont découvert, y compris des syndicalistes français, qui découvraient qu'il y avait des luttes menées par des mineurs, par des travailleurs, et que eux, dans leur syndicat, ils n'étaient pas au courant. On a vu avec les manifestations des mères de famille, il n'y a pas longtemps, la manifestation de samedi, ici à Marseille, même si la préfecture nous a mis dans une zone entre arabes, faites votre manifestation entre arabes, c'est-à-dire de la Belle de Mai, de la place Cardenas jusqu'à la porte d'Aix, pour ne pas venir déranger les bien-pensants, la société du centre-ville. Donc, on n'est pas dupes.
Le podcast s'appelle « Pourquoi tu cries ?». Là, on a compris au fil de l'entretien qu'est-ce qui vous porte. Mais moi, j'aurais envie de savoir aussi comment vous faites pour garder la force.
C'est parce que je crie. Tout le temps, je ne laisse pas passer des choses, des injustices. Dès qu'il y a quelque chose quelque part, j'y vais et je participe au cri avec les autres. Sur la Palestine, sur l'immigration, on ne baisse pas les bras. Une bonne partie, par exemple, une bonne partie des jeunes de Marseille, avec qui on fait du travail sur les quartiers, sur ce qui se passe, on a fait des choses avec eux sur la Palestine. Il y a un groupe de jeunes, partout, essentiellement des filles, il y avait des garçons avec moi, on est parti en Palestine, on est parti à Gaza. Ils continuent à faire du travail de sensibiliser, d'intervenir, de dénoncer ce qui se passe. Pourquoi je crie ? Je ne l'ai pas dit depuis le début, c'est que je me sens un enfant de l'exil et que je ne transmets pour le moment que de l'exil aux gens. Je suis né en 47. Pendant la guerre d'Algérie, mon père, pour des raisons de santé, etc., il a été obligé de s'exiler au Maroc. Il est décédé au Maroc. Après, j'ai vécu dans les camps de réfugiés, donc je rentre en Algérie. À 20 ans, je sens qu'il y a des choses qui ne vont pas comme on l'espérait après l'indépendance. C'est pour ça qu'il y a eu le cri à partir du théâtre, cette révolte au niveau du théâtre, d'intervenir. Puis après, je viens ici pour échanger, pour voir avec des Français qui étaient en Algérie coopérants, qui m'ont parlé de la France. Mais je suis arrivé ici, j'ai trouvé un pan de la société de ce pays, qui étaient les immigrés, qui étaient des laissez-vous. Et j'ai commencé à crier avec eux. J'ai encore la force pour crier. Je continue, comme dirait la chanson d'un chanteur célèbre qui dit « Je crie et je crie encore ». Je crois que c'est Reggiani. Et je pense que les cris comme cela, un jour ou l'autre apporteront leurs fruits. Même si moi je ne goûterai pas du fruit, les cris, ils vont peut-être dans le cosmos là, quand on crie comme ça. Et, mais bon, le cosmos les renvoie avec les événements qu'on a.
Merci beaucoup. Merci pour ce moment et tous ces témoignages.
Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie pour que ces cris soient un peu transmis.
C'était Pourquoi tu cries, un podcast d'Approche Culture et Territoire, réalisation Colline Charbonnier.